Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, merci d'avoir choisi Canal Académie. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Francis Ball, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, où il est responsable du master recherche sur les médias et du master professionnel multimédia. Il dirige aussi l'Institut de recherche et d'études sur la communication, l'IREC. Il est aussi professeur invité depuis 1980 à l'Université de Stanford en Californie. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Vous êtes l'un des universitaires français les plus reconnus dans le domaine des médias, de l'information et de la communication. Votre carrière est indissociable des médias. Vous avez en effet dirigé l'Institut français de presse, été ensuite vice-chancelier des universités de Paris avant d'être nommé membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en janvier 1989, organisme au sein duquel, et jusqu'à la fin de votre mandat, vous étiez en charge du spectre hertzien, des nouvelles normes et des nouvelles technologies. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur les médias, dont le plus fameux est « Médias et sociétés » que vous avez publié pour la première fois en 1980 et que, depuis cette date, vous actualisez et rééditez régulièrement. La 13e édition de cet ouvrage de près de 800 pages, qui est une véritable bible des médias, édité chez Mon Chrétien, est parue en septembre 2007. Pouvez-vous, pour nos auditeurs, présenter cet ouvrage qui traite de tous les médias, qu'il s'agisse de l'édition, de la presse, du cinéma, de la radio, de la télévision et bien sûr d'Internet, à la fois en France et à l'étranger, les médias sous tous leurs aspects, historiques, juridiques, économiques, sociologiques, dans tous leurs états et dans toutes leurs dimensions. Ma première question donc porte sur l'origine de ce livre, sur sa genèse. Quel était votre objectif en 1980 lorsque vous l'avez écrit et comment procédez-vous pour l'actualiser régulièrement, ce qui suppose sans doute une véritable veille à la fois en France et à l'étranger?
Écoutez, l'idée de départ n'est pas la mienne, elle est celle de l'université qui m'a accueilli à la fin des années 70, l'université de droit et d'économie et de sciences sociales de Paris, donc Paris 2, qui est une université qui n'a pour professeur que des agrégés de droit, ce que je ne suis pas. Moi, j'étais jusque-là maître assistant de sciences politiques, maître assistant de Raymond Aron, donc littéraire, philosophe, spécialiste de sciences politiques. Et cette université, en m'accueillant, m'a demandé de faire un enseignement, de dispenser un enseignement aux étudiants de licence, qu'ils soient juristes ou qu'ils soient économistes, un enseignement qui porte précisément sur la presse, la radio et la télévision. Car le mot « média » était à peine entré dans le vocabulaire français. On ne savait pas très bien si on devait dire un médium, un média, avec un accent ou avec un S au pluriel. Donc le livre est simplement le fruit d'un enseignement qui m'avait été confié dans les années 70 et dont on avait dessiné pour moi les contours. Il s'agissait d'aborder surtout la presse, la radio et la télévision à l'époque, et de l'aborder d'un point de vue pluridisciplinaire, c'est-à-dire en considérant les institutions, c'est-à-dire avec un point de vue qui est plutôt juridique ou politique, les effets, c'est-à-dire un point de vue plutôt sociologique et psychosociologique, et bien entendu le paysage des médias sous un angle que l'on oublie souvent d'adopter, c'est-à-dire un point de vue également économique. Alors inutile de dire que depuis 1980, évidemment, le livre a beaucoup évolué, parce que le paysage des médias, lui aussi, a changé. J'y ai ajouté, bien sûr, le cinéma, car c'est un grand média, un grand mass-média, et comment ne pouvais-je pas ajouter, évidemment, aujourd'hui, Internet, ce qui justifie que le livre a un peu grossi depuis sa naissance en 1980.
Votre 13e édition évoque une ère nouvelle pour les médias et la communication. Quand a commencé pour vous cette ère nouvelle? Est-ce en 1980, dans les années 90, dans les années 2000?
En réalité, nous n'avons pas cessé d'enregistrer des ruptures dans l'évolution des médias depuis 1960. Pendant un siècle, depuis 1850 jusqu'en 1960, on s'était habitué à ce que la presse fût seule, car au fond, la radio avait été discréditée par l'usage que les barbaries en avaient pu faire, que ce soit le nazisme, le fascisme ou le soviétisme. Et le cinéma, lui, avait été discrédité pareillement, parce qu'il avait surtout servi les propagandes du nazisme et du stalinisme. En 1960, lorsqu'on parlait de l'information, lorsqu'on parlait de la communication, on parlait surtout de la presse, et principalement de la presse quotidienne, dont Hegel avait dit au début du 19e siècle, dont il avait dit que c'était véritablement la prière laïque du citoyen moderne. En 1960, première rupture, la radio et la télévision entrent sur le terrain de l'information presque par effraction. La télévision et la radio sont démultipliées dès 1975 grâce aux câbles et aux satellites, puisque les ondes hertziennes ne sont plus le seul vecteur permettant de convoyer les images et les sons. Ensuite, en 1980, vous avez la naissance à travers le Minitel de ce qui deviendra Internet. Et en 1985, les CD audio remplacent les disques vinyles, c'est-à-dire que le son lui-même est traduit dans le langage numérique, c'est-à-dire dans le langage de l'informatique, langage qui aujourd'hui est devenu universel, puisqu'il n'y a plus un contenu aujourd'hui, que ce soit des textes, des images, des sons, des images fixes, des images animées, qui ne soient traduites dans ce langage universel qui est venu de l'informatique et qui n'est qu'une succession de 0 et de 1. Donc, lorsque vous m'interrogez pour savoir quand, véritablement, nous sommes entrés dans une ère nouvelle, sur le terrain de l'information, le grand bouleversement, c'était 1960. Sur le terrain de l'abondance, c'était 1975 avec les câbles et les satellites. Sur le terrain maintenant d'Internet, qui est le grand vecteur aujourd'hui, aussi bien pour le téléphone que pour la radio, la télévision, le cinéma, et on est bien placé ici pour le savoir à Canal Academy, ce sont les années 90. Touchons aujourd'hui les dividendes d'une succession d'innovations technologiques qui nous sont arrivées en rafale depuis 1960, surtout depuis 1975, et bien sûr plus encore et avec une accélération du rythme de cette succession depuis 1992-97, puisque c'est vraiment à la fin du siècle passé qu'on a vu s'imposer, et avec quel succès, Internet.
Il y a eu, semble-t-il, donc une accélération des mutations dans la période récente, autour des années 2000. Quels en sont les effets les plus marquants?
Les deux moteurs de cette évolution, ce furent le haut débit et le téléphone portable. Personne n'avait pensé que le haut débit allait s'imposer aussi rapidement, alors qu'il répondait à une demande. C'est que Internet a tout de suite connu un grand succès, mais qu'il y avait beaucoup d'embouteillages et beaucoup d'accidents sur ces autoroutes de l'information dont on a parlé à la fin des années 90, à la fin du siècle passé. Ça, c'est le premier moteur, le haut débit, qui a considérablement accéléré la progression d'Internet et les performances aussi d'Internet, qui devenaient du même coup infiniment plus fiables et capables de convoyer non seulement évidemment des textes, mais aussi des images et des images animées, c'est-à-dire de la vidéo. Et le deuxième moteur, totalement inattendu, c'est le téléphone portable, c'est-à-dire la possibilité pour un terminal que l'on a dans sa poche, relié à des réseaux invisibles, et non pas des réseaux filaires, donc vous n'avez plus un fil à la patte, ce terminal, il est aujourd'hui capable techniquement de faire tout ce que l'ordinateur était capable de faire il y a quelques années, tout ce que la télévision était capable de faire il y a quelques années. Donc ce sont les deux moteurs qui ont véritablement accéléré le rythme auquel ont été adoptés les différents services et les différents contenus portés aujourd'hui par Internet.
Cette évolution n'est certainement pas arrivée à son terme. Quelle perspective voyez-vous pour les 10 ans à venir et quel coup de projecteur vous pouvez nous donner sur cet avenir sans jouer les pitis, mais...
Oui, ça, véritablement, là, il y a trop de gens qui se sont trompés pour que je ne sois pas enclin à la plus grande des prudences en vous répondant. Je crois que si on veut savoir ce qui va se passer dans les 5 ou les 10 années à venir, n'allons pas au-delà. car personne n'avait prévu Internet, personne n'avait prévu que les câbles et les satellites allaient servir à désenclaver la télévision, c'est-à-dire à permettre aux gens de recevoir plus que 3 ou 4 chaînes là où ils sont. Il ne faut pas regarder, si on veut prévoir ce qui va se passer, il ne faut pas regarder du côté des techniques et de ce qu'elles sont capables de faire. Il faut regarder du côté de la demande, c'est-à-dire de ce qui inquiète le plus les gens et de ce qui risque par conséquent d'avoir du succès. Et je crois qu'il y a 2 secteurs qui aujourd'hui sont l'objet des plus grandes frustrations de la part de nos concitoyens, mais de nos concitoyens, de nos contemporains, devrais-je dire, parce que ce ne sont pas seulement des concitoyens. C'est le secteur de l'éducation, où véritablement l'école, malgré les efforts qu'elle fournit, comme l'université, malgré les efforts qu'elle fournit, ne donne pas entière satisfaction. Et donc, elle sera probablement secondée par des outils dont nous n'avons pas l'idée aujourd'hui, mais qui vont venir préparer ou prolonger les enseignements qui continueront bien entendu d'être dispensés par des instituteurs pour le primaire et des professeurs pour le secondaire et le supérieur. Ça, c'est le premier secteur où je crois que l'on verra naître des services dont on n'a pas aujourd'hui l'idée et qui tireront parti du multimédia, c'est-à-dire de la possibilité que l'on a de mélanger aujourd'hui des textes avec des images fixes ou de la vidéo. Et puis le deuxième secteur, c'est celui de la santé, où là aussi, nous sommes évidemment tous à des degrés divers hypochondriaques, nous sommes tous attentifs à notre santé. Le succès des produits bio le montre, mais pas seulement, bien entendu. Et il me semble que dans le domaine du télétraitement, du télédiagnostic, de la possibilité que l'on aura de consulter à distance les spécialistes les plus compétents, probablement que c'est dans ce domaine de la médecine, donc dans celui de la santé, que l'on verra naître beaucoup de services dont nous n'avons pas encore l'idée aujourd'hui.
Donc l'explosion des médias ne sera pas défavorable à la diffusion des savoirs, semble-t-il, dans la perspective que vous évoquez, notamment celle de l'éducation. Je voulais revenir sur un thème que vous évoquez dans l'ouvrage, qui est celui des relations entre ceux que vous appelez les mandarins, et vous allez nous dire de qui il s'agit, les marchands, et les médias. Quel est le rôle des médias entre les mandarins et les marchands? Et quelle place aujourd'hui les médias donnent-ils aux mandarins? J'aimerais en savoir plus.
Alors, l'idée est issue du succès de la presse au XIXe siècle, lorsque la presse est véritablement devenue un mass-média. La presse quotidienne est le prototype de nos mass-médias, c'est-à-dire les journaux quotidiens, avec leurs journalistes, n'avait d'autre vocation que de s'adresser à tout le monde, sans discrimination, atteindre par conséquent la consommation, entre guillemets, maximale, et d'aborder du même coup tous les sujets possibles, susceptibles d'intéresser une audience aussi large que possible. Tous les médias, tous les grands médias, ont pour ambition une consommation maximale et, bien entendu, une variété aussi grande que possible de sujets. Ce qui veut dire que les élites ne vivent plus repliées sur elles-mêmes, les élites, c'est-à-dire le monde des arts, le monde des sciences et le monde aussi de la politique, ce que, brièvement, pour les commodités d'un titre, j'appelais les mandarins, c'est-à-dire ceux qui défendent le bien public, ceux qui illustrent et défendent des valeurs, la recherche de la vérité, ou bien pour les savants, la recherche de la beauté pour les artistes, ces mandarins ont la possibilité de ne plus vivre seulement entre eux, mais de rendre leurs œuvres et leurs actions accessibles au plus grand nombre. Et ça, c'est véritablement l'ambition démocratique dans toute sa pureté. C'est vraiment l'idéal démocratique, faire en sorte que les biens les plus remarquables, les œuvres les plus remarquables de l'esprit, le plus grand nombre possible de gens puissent en bénéficier. Or, nous avons à notre disposition des techniques, ce sont les médias, et pour servir d'intermédiaire entre le grand public, comme on dit, et puis ces œuvres remarquables, ou ces actes qui intéressent tout le monde, ces actions qui intéressent tout le monde, la politique par exemple, par conséquent, il y a les journalistes. Donc les journalistes jouent un rôle d'intermédiaire, d'intercesseur, de médiateur entre les représentants du monde des arts, du monde des sciences, du monde de la politique, et puis le public. Et pour pouvoir faire leur métier de médiateur, ils ont à leur disposition des médias de plus en plus performants, de plus en plus divers, de plus en plus nombreux, de plus en plus accessibles, donc de moins en moins coûteux. Coûteux côté émission et coûteux côté aussi réception. Donc, on a affaire à une espèce de triangle, en quelque sorte, où les mandarins se servent des journalistes pour accéder au grand public, et où le grand public fait confiance à certains médias, donc à certains journalistes ou certains médiateurs, pour accéder à des œuvres qui méritent d'être présentées, d'être expliquées, pour être mieux comprises et mieux appréciées. Voilà donc l'idée de ce triangle, où chacun doit jouer son rôle. L'intermédiaire n'a pas à se substituer au mandarin. Le public doit faire confiance au journaliste qui s'adresse à lui et qui lui rende accessible donc des œuvres auxquelles sans les journalistes ou sans les médiateurs qui sont là pour alerter, pour expliquer, ils n'auraient pas forcément accès.
Canal Académie.
Et ne pensez-vous pas que parfois les marchands, ce que l'on appelle les marchands, les financiers, peuvent contrecarrer cette belle ambition démocratique, puisqu'aujourd'hui les médias sont dans l'ensemble soumis aux lois de l'économie? Ne pensez-vous pas que dans certains cas, la culture puisse être mise en péril?
Alors, il est heureux que les œuvres les plus remarquables puissent être mises à la disposition du plus grand nombre grâce à des marchands qui sont entreprenants. Donc, le marché sur le terrain de l'information, sur le terrain de la culture, c'est comme le régime démocratique, le pire des régimes à l'exception de tous les autres, selon la définition churchillienne. Donc, ne jetons pas l'opprobre sur le marché, il est nécessaire. Il est nécessaire. Il est indispensable que des entrepreneurs puissent mobiliser des techniques, des médias, des médiateurs, donc des hommes, pour mettre à la disposition du plus grand nombre ces œuvres qui sont remarquables sur le terrain de l'information comme sur le terrain de la culture. C'est nécessaire, le marché est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Le marché n'est pas une école de vertu. Il est bon que les œuvres les plus remarquables soient véritablement désignées comme telles, il est bon que la créativité ne souffre pas de cette mise sur le marché d'œuvres qui risquent de ne pas être toujours remarquables. Donc, il faut que les mandarins, entre guillemets, puissent avoir des lieux privilégiés qui ne soient pas soumis à la logique marchande, car la quantité ne fait pas forcément bon ménage avec la qualité, et on ne mesure pas la qualité d'une œuvre au succès qu'elle remporte sur les écrans ou dans les librairies. Il faut, à la fois pour soumettre ces œuvres à une autre critique qu'à celle du marché, du verdict des lecteurs ou des auditeurs ou des téléspectateurs, il faut que les mandarins puissent vivre quelque part entre eux, dans des cénacles, dans des académies, dans des universités, à l'abri de la suggestion du marché, afin de soumettre les œuvres de leur père, PAIRS, les soumettre au tribunal de la critique, mais d'une critique éclairée, et qui risque aussi d'éclairer les autres, tous les autres. Et je crois que c'est aussi indispensable qu'il y ait ces lieux tout à fait privilégiés, tout à fait protégés, des espèces de sanctuaires pour les chercheurs, pour les artistes, non seulement pour développer l'esprit critique vis-à-vis des œuvres artistiques ou des œuvres scientifiques, mais aussi pour développer la créativité, c'est-à-dire la capacité d'une société à créer quelque chose de nouveau. On n'a pas, après tout, comme le dit un académicien des sciences ici, on n'a pas inventé l'électricité en essayant d'améliorer les chandelles. Il faut qu'il y ait une recherche désintéressée. Il faut que des artistes ne soient pas toujours soumis à la loi du marché, ce qui ne leur interdit pas évidemment, parce qu'il faut finir ses fins de mois, de vendre leurs œuvres, ce qui ne les interdit pas, leur interdit pas évidemment d'aller voir des galeristes pour essayer d'accéder au grand public, mais il faut aussi qu'ils aient la possibilité de créer des choses nouvelles, sinon comment va se renouveler la culture médiatique ? Comme où vont venir s'alimenter, où vont venir s'abreuver les médias s'ils n'ont pas ces lieux de création dans l'un ou l'autre des domaines de l'esprit, de l'activité de l'esprit.
Ceci me conduit à évoquer un sujet d'actualité qui est celui de la télévision publique. Après les déclarations du président de la République au début du mois de janvier qui concernent la suppression de la publicité à la télévision publique et également à Radio France, le débat s'est ouvert, un débat qui peut-être est l'occasion d'une véritable réflexion sur la télévision publique et qui peut être l'occasion donc de s'interroger sur sa raison d'être. Je voulais vous demander comment vous voyez l'avenir des chaînes publiques et quelle doit être la mission de la télévision publique.
Vous l'avez dit vous-même, cette proposition qui nous vient du président de la République a surpris le monde des médias, alors qu'elle n'est pas véritablement surprenante. Ce qui est surprenant, c'est que l'on ait consenti, pour ne pas faire d'efforts financiers, pour ne pas augmenter la redevance, pour ne pas fiscaliser, c'est-à-dire budgétiser une partie du financement de la télévision publique, on a finalement laissé dériver la télévision publique avec, c'est vrai, de plus en plus de publicité. On a oublié par conséquent que la télévision publique américaine n'était financée que par des dons, par le budget du Congrès, et pas un budget qui lui est accordé chaque année par le Congrès, qui n'augmente d'ailleurs pas beaucoup, mais aussi par le mécénat
et
par
la chaîne PBS,
de la chaîne de le réseau public américain. Quant à la BBC, elle n'est financée, elle, que par la redevance. Et ce sont des chaînes qui sont véritablement exemplaires, notamment la chaîne américaine qui a beaucoup innové sur le terrain où il y avait une attente, sur le terrain de l'information comme sur le terrain des programmes pour les enfants. Deux domaines dans lesquels les congressistes et les universitaires, quelques congressistes et quelques universitaires américains en 1966, s'étaient inquiétés de voir la télévision ne pas y consacrer ce qu'elle devait y consacrer. Alors, que doit faire la télévision publique ? Je crois que c'est ce qu'elle a commencé à faire depuis quelques années, depuis trop peu d'années, peut-être, depuis qu'elle est, en tout cas, ne parlons pas de l'époque où il n'y avait pas de télévision de chaîne privée, lorsqu'il n'y avait qu'une chaîne publique ou deux chaînes publiques. Ce qu'elle a commencé à faire un peu sous Marc Tessier et beaucoup depuis l'arrivée de Patrick de Carolis et de Patrice Duhamel à la tête du groupe France Télévisions, c'est-à-dire des émissions qu'on ne trouve pas sur les chaînes privées parce que simplement elles risqueraient de détourner une fraction de son audience habituelle, c'est-à-dire la captation de programmes de théâtre, la captation de programmes musicaux, également des fictions difficiles d'accès qui évoquent soit une actualité récente, soit des phénomènes d'histoire. Et il y en a bien d'autres, la liste est quand même assez longue. Alors, ce que doit faire en définitive les télévisions publiques, c'est évidemment autre chose que ce que font les télévisions privées. Ou alors, si elles font la même chose, elles doivent le faire autrement. Ce qui veut dire qu'il est urgent de réviser le cahier des charges de ces chaînes publiques. Et je crois que l'autorité la mieux qualifiée pour déterminer ce cahier des charges, ce ne sont bien sûr pas des fonctionnaires du ministère de la Culture, ce n'est pas non plus un service du Premier ministre, c'est le CSA qui, on l'oublie, détermine les obligations particulières aux radios et aux télévisions auxquelles le CSA accorde des fréquences et l'usage de ces fréquences, eh bien, ce que le CSA fait pour les chaînes privées de radio ou de télévision, pourquoi ne le ferait-elle pas pour les chaînes publiques, les diverses chaînes publiques ?
Je vous remercie. Nous allons marquer une courte pause avant de retrouver notre invité pour une nouvelle séquence de notre émission. Madame, Monsieur, vous êtes sur Canal Académie où nous accueillons Monsieur Francis Ball, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Et nous reprenons le fil de notre émission avec un thème qui vous est cher, celui de la vérité et des médias. Vous avez en effet prononcé une conférence de carême en mars 2007 à Notre-Dame, à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, sur le thème communiquer, vérité et médias. Je souhaite donc pour nos auditeurs vous interroger sur ce sujet cher à votre cœur et tellement fondamental de la vérité. Francis Ball, les médias nous disent-ils la vérité ? Quelle vérité peuvent-ils nous proposer ?
Alors, ils ne peuvent nous proposer que des vérités qui sont partielles, que des vérités qui sont provisoires, que des vérités qui sont incertaines, que des vérités vis-à-vis desquelles il faut savoir conserver toujours son esprit critique. Il ne faut pas évidemment croire sur parole ce que vous disent les médias. Mais si j'ai accepté la proposition qui m'avait été faite de parler du problème de la vérité au regard des médias, est-ce que les médias vraiment nous disent la vérité, est-ce qu'ils sont capables de nous dire la vérité? C'est parce que je suis depuis longtemps un peu agacé par le rejet de la part de nombreux journalistes de l'idéal d'objectivité. L'objectivité est un idéal, en tant que tel, on le sait, inaccessible, mais il n'en est pas moins totalement indispensable. Il est d'autant plus indispensable qu'il est inaccessible. Et je crois que les vertus de la vérité, pour le journaliste, il n'y en a que deux, la véridicité, c'est-à-dire le souci de la véracité des faits. Les faits doivent être établis aussi objectivement que possible. Le journaliste, comme l'historien, comme le savant, doit avoir l'obsession, le souci des faits, tout en sachant qu'évidemment il est difficile d'en rendre compte. Ça, c'est la première vertu de la vérité, c'est la véridicité. Et la deuxième vertu, c'est la sincérité. Car nous savons tous que le journaliste doit aller au-delà du simple fait, il doit livrer une interprétation, analyser ce fait, cet événement, et puis exprimer, lorsqu'on le lui demande, un avis sur ces faits. Il doit toujours le faire avec la plus grande sincérité. Et ça, la sincérité me semble être la deuxième vertu du journaliste. Être sincère, c'est-à-dire essayer d'être aussi impartial que possible. Et lorsqu'il sent qu'il risque de ne plus être impartial parce qu'il risque d'être prisonnier de ses propres convictions, de sa propre subjectivité, il doit simplement le dire. Et le comble de l'objectivité, c'est d'avouer sa subjectivité quand on sait que l'on risque d'en être victime. Voilà les trois étapes, les trois paliers que le journaliste doit absolument franchir et être aussi attentif que possible aux faits, être lorsqu'on analyse ou lorsqu'on interprète ces faits aussi sincère que possible, et ensuite lorsqu'on sait que l'on risque de ne plus être capable de toute l'impartialité souhaitable, avouer sa subjectivité, dire j'ai tel parti pris. Et ne pas mettre en tout cas son drapeau dans la poche quand ce drapeau risque de vous voiler la face.
Le devoir de vérité donc se heurte à certaines limites finalement. Mais la responsabilité du journaliste telle que vous la dépeignez paraît très grande. Pourquoi au fond aujourd'hui l'information ne nous apparaît pas satisfaisante alors même que les sources d'information se sont multipliées? Pourquoi est-ce que nos concitoyens, au fond, ressentent une crise de confiance vis-à-vis des médias, de la presse et de l'information? Est-ce la seule responsabilité des journalistes?
Non, vous me tendez la perche pour répondre à ma place. C'est vrai, la crise est double. C'est une crise de légitimité, une crise de crédibilité. Au fond, nous sommes le pays qui a osé dire à travers l'un de ses premiers journalistes, si la presse n'existait pas, au fond, ce serait beaucoup mieux. Aujourd'hui, on entend dire, si Internet n'existait pas, ce serait mieux. Donc, il est certain que l'on conteste souvent la raison d'être, la légitimité des journaux, des journalistes, des médias d'information. Et le fait que l'on conteste la légitimité des journalistes nous conduit très trop aisément à leur dénier toute crédibilité, c'est-à-dire à ne pas leur accorder notre confiance. ce qui évidemment rend difficile leur tâche, puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur la confiance des gens. Alors il faut avoir évidemment un certain esprit critique, mais il ne faut pas que cet esprit critique vire à l'esprit de critique systématique et que l'on en vienne à contester à tout instant ce que les journaux nous disent. Les journalistes, pour exercer leur métier sereinement, doivent jouir d'une certaine confiance de la part de ceux auxquels ils s'adressent. Donc la crise des journaux, la crise des médias d'information, qu'ils soient imprimés, numériques ou audiovisuels, c'est une double crise de légitimité et de crédibilité.
Bien, auriez-vous un conseil à donner aujourd'hui à un jeune journaliste débutant ?
À un jeune journaliste, je lui dirais, d'abord, derrière le mot journaliste, on met des réalités tout à fait différentes. Il y a les fantassins qui collectent l'information pour les grandes agences, pour l'AFP. L'AFP a 2000 journalistes, dont 250 sont photographes, et exclusivement photographes. Or, les photos peuvent dire sur un événement beaucoup plus de choses qu'un texte, beaucoup plus qu'un commentaire.
Elles peuvent mentir aussi, elles peuvent tromper aussi.
Ben, vous savez, les écrits peuvent tromper aussi. L'image peut tromper, mais l'écrit peut tromper aussi. Pas de querelle inutile. Le débat sur les images qui trompent et les textes qui ne trompent pas est un faux débat, parce que le mensonge peut s'immiscer partout. Le mensonge, il serait délibéré, mais l'erreur, elle, peut se glisser partout. L'information est un combat sans fin qui n'est jamais gagné contre précisément les préjugés, contre les rumeurs, contre les idées reçues. Il faut bien penser que l'information, c'est pas une essence, c'est un combat, c'est un processus. C'est un processus de, comment dirais-je, où l'on essaie de vaincre les idées reçues que l'on peut avoir sur un événement ou sur un fait, ou la première impression que l'on peut avoir. Il faut jamais se fier à sa première impression, même si l'on croit que c'est parfois la bonne, même si on peut penser que c'est souvent la bonne. Il faut avoir le souci des faits, comme un historien. Un historien va fouiller dans les archives, un historien ne peut pas se permettre de ne pas être impartial. Il peut aimer ou ne pas aimer la Révolution française, mais il est obligé d'en rendre compte. Il peut ne pas aimer ou aimer mai 68, qu'il l'ait vécu ou qu'il ne l'ait pas vécu, mais il doit essayer, en tout cas, de raconter mai 68 comme les choses se sont passées, aussi près que possible des faits, en faisant intervenir aujourd'hui ceux qui ont vécu, qui en ont été les témoins, et en essayant de donner la parole au plus grand nombre de gens possible, tout en sachant qu'évidemment il faut bien limiter le nombre de témoins, mais en tout cas des témoins qui ne vont pas tous dans le même sens.
Je vous remercie. Si vous voulez, madame, monsieur, mieux comprendre les médias et l'influence qu'ils exercent sur chacun de nous, sur la société, sur la vie internationale, le monde d'aujourd'hui et de demain, je vous conseille de lire l'ouvrage de Monsieur Francis Ball, notre invité d'aujourd'hui, « Médias et société », publié aux éditions Mon Chrétien. Et vous pouvez aussi lire d'autres ouvrages de Francis Ball, notamment récemment publié en 2007 dans la collection Que sais-je, PUF, Les médias. Je précise aussi que l'intégralité du texte de la conférence de Carême 2007 que évoquée dans cette émission est disponible sur le site de Canal Académie. Et je remercie notre invité, Monsieur Francis Ball. Merci.
Merci.